il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la lie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Vous trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bonsoir Raoul, bonsoir à toutes et à toutes. On est en direct sur Radio Canu.
Et oui, nous sommes le jeudi 2 juin et voilà, on accueille Raoul pour son premier bonsoir, bonjour à Radio Canu. Hein, on espère que
ouais,
tu prendras la relève demain. Bah ouais, t'as l'air prêt. Et toi aussi à venir causer dans le micro de Radio Canu. Un petit peu, on va te laisser un petit peu.
Merci.
Quelques années. Eh ben, c'était sympa de t'avoir avec nous. On sait que tu nous écoutes très souvent, donc on était contents de t'avoir avec nous. À bientôt.
Alors,
ce soir, nous allons vous parler des mobilisations autour de la loi travail. On va en parler quand même un petit peu. Nous reviendrons aussi sur les mesures du Sénat autour de cette loi travail. Nous parlerons des mobilisations chez Amazon France. Nous ouvrirons ensuite une page plus internationale. Nous reviendrons sur le génocide arménien. On parlera un petit peu de ce qui se passe du côté d'Israël et de la Palestine. Et puis, nous aurons un sujet sur Apple qui s'autocensure. Nous parlerons ni Dieu ni maître ce soir. Et puis, peut-être de l'euro et peut-être aussi quelques informations radioactives. Très certainement, nous parlerons de tout ça.
Mais on voulait rendre hommage.
Oui. Oui, ah. Alors on sait que c'était la semaine dernière, mais quand même, nous voulions revenir sur cette information de vendredi dernier et rendre nos hommages. Nos hommages à qui ? À monsieur Jean-Claude Decaux.
J.C. Decaux.
Eh oui, ce groupe, J.C. Decaux. Alors, un grand ami, je vais te lire une phrase qui a été déclarée dans les Échos par Gérard Unger, ou Unger, je sais jamais, Unger, je crois, président de Métrobus, donc la régie publicitaire de la RATP, et il nous explique, il est arrivé avec ses abribus, ses panneaux, et il a changé le visage des villes.
Et c'est une réalité, cet homme a détruit totalement l'image des villes en y plantant cette bouse qui est la publicité, en détruisant l'image de quartier aussi beau qu'on peut connaître dans toutes les villes. Heureusement, Radio Canu sur le bas des pentes de la Croix-Rousse, qui est un quartier protégé, qui a empêché J.C. Decaux d'installer ses bouses. Sauf que, même dans un quartier protégé par l'UNESCO, on a droit à des abribus avec de la publicité qui nous vient donc de ce monstre, J.C. Decaux. Donc moi, je voulais lui rendre cet hommage. Quand un monstre disparaît, on lui rend hommage même quand c'est un monstre.
Alors t'es dans la caricature parce que je crois que ça t'a beaucoup énervé, ces hommages médiatiques à répétition et puis ces hommages politiques. Alors monsieur Hollande a parlé d'un grand entrepreneur, monsieur Valls a posté Jean-Claude Decaux avait la fibre des grands industriels innovateurs et conquérants. Ce mot conquérant est souvent revenu dans la presse. Monsieur Sarkozy a lui aussi salué un chef d'entreprise hors pair qui a contribué au rayonnement de la France, hein, carrément. Et puis évidemment, notre GG à nous, notre Gérard Collomb, qui a rappelé que Lyon, où il installa ses premiers abribus, puis Vélov, 40 ans plus tard, Lyon lui rend hommage. Alors, je ne savais pas que M. Gérard Collomb parlait au nom de Lyon, mais apparemment, si, hein, c'est quand même une de ses habitudes. Oui, il faut se rappeler que Lyon a été une ville test pour ce groupe qui est devenu une multinationale, hein, de la publicité, de la propreté, tout ça c'est des packages, tout ça c'est aussi sur catalogue au niveau de son mobilier urbain. Et puis alors je crois quand même que l'hommage le plus vibrant et le plus sincère que j'ai pu trouver, c'est dans Les Échos justement, écrit par Laurence Nkawa et Véronique Richebois le 29 mai. C'est le titre Jean-Claude Decaux, la mort d'un conquérant. Et alors là, je crois que ces journalistes n'en pouvaient plus, qu'elles étaient toutes retournées, dites donc, enfin voilà.
Ouais, on le remerciera pas d'avoir détruit la beauté de nos villes et de nos villages, d'avoir installé ces fameuses sucettes, hein, qui, si vous faites notamment du vélo, vous rendez compte qu'à des moments, eh ben, elles vous empêchent de regarder à droite les voitures qui pourraient arriver et vous mettre donc en danger. Mais ça, c'est pas grave. J.C. Decaux aimait le vélo, mais le vélo qui lui rapportait de l'argent, pas le vrai vélo. Donc voilà, oui, c'était notre hommage à nous après le. Les éloges injustifiés quand même contre ce personnage.
Ce conquérant. Hein.
Malheureusement, le groupe va continuer d'exister.
Hein. Bah, oui, hein, et la pub ne va pas disparaître. Il a placé ses fils et l'entreprise, c'est aussi avec le côté famille quand même. Alors, une actualité en chasse une autre, avec les médias, en particulier les radios et les chaînes d'information en continu. C'est-à-dire que pendant 4 jours, 5 jours, on va vous parler de la même chose. Et là, on nous parle évidemment des inondations.
Mais nous, on ne va pas en parler.
Donc, la semaine prochaine, s'il fait beau, j'imagine qu'on ira sur les plages. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Alors à chaque fois, il n'y a pas que évidemment le climat. Non, nous on va vous parler des mobilisations contre la loi travail, puisque rien ne s'arrête, tout continue, la lutte elle est toujours là. Alors aujourd'hui, une journée de blocage, de barrages filtrants, de grève. Alors par exemple, c'est autour de l'usine de Renault-Cléon, c'est vers Rouen. Il y a eu un blocage sur la département de 7, ce qui fait qu'il y a eu tout plein de bouchons. Il y a eu des manifestations. Alors à Nantes, il y a eu 3000 personnes. À Toulouse, il y a eu une manif. Il y a eu aussi une opération péage gratuit. Il y a eu une très belle manif au Havre. On notera aussi, par exemple, il y a des grèves au CHU d'Angers. C'est 100 personnes, 100 salariés qui sont en grève. Il y a eu une manifestation à Avignon et le PS avait porté plainte contre la CGT parce qu'ils avaient collé des autocollants. La CGT est revenue sur les lieux du drame, avait sorti une toute petite banderole mais très rigolote avec toutes nos excuses, c'était donc écrit dessus sur cette banderole. Bah oui, il faut un petit peu d'humour quand même. C'est au siège du MEDEF de l'Aude, il y avait des grévistes qui occupaient donc ce siège. Et puis à Rennes, encore une fois, une manif très importante. Et alors qui s'est déroulé avec un truc assez incroyable, qui a été quand même très heureusement médiatisé. Des camions de police, 5 véhicules de police ont foncé sur les manifestants. C'est-à-dire que comme souvent à Rennes, à un moment, des manifestants et des manifestantes ont souhaité poursuivre une manifestation là où elle n'était pas prévue. Les véhicules de flics ont donc foncé dans le tas, ils ont ouvert les vitres des véhicules, ont matraqué à travers la vitre et ont jeté des gaz lacrymogènes à travers les vitres, tout en restant à l'intérieur de la voiture. Non, mais il faut imaginer une telle scène quand même. Ils ont traversé comme ça le groupe de manifestants, un truc de dingue. Après, il y a des dizaines de flics qui ont pourchassé les manifestants à coups de matraque, voilà, de la chasse. Hein, pour attraper les manifestants. Il y a eu un certain nombre de blessés, les pompiers sont intervenus. Donc voilà, les flics, encore une fois, perdent complètement les pédales, ils perdent pied. À côté de ça, il y a des manifestations qui sont passées heureusement un peu mieux. À Marseille, il y a eu 45 000 manifestants. selon la CGT, voilà, donc tout un tas de manifestations, de blocages partout, et puis il y a toujours des grèves. Alors à Orly, il y avait 10% des vols qui ont été annulés. Par contre, les 4 syndicats de contrôleurs aériens ont levé le préavis de grève pour ce week-end. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'à Air France, les 3 syndicats de pilotes appellent à la grève du 11 au 14 juin. Donc l'euro aura commencé, vous avez bien compris. Côté SNCF et train, alors c'était aujourd'hui une belle action Gare de Lyon à Paris. Le trafic des grandes lignes et banlieues a été interrompu complètement. Les grévistes de la CGT et de Sud ont occupé le poste d'aiguillage. Ils sont allés sur les voies. Alors ce qui est rigolo, c'est que ils se sont parés des micros. Ils ont balancé des chansons dans la gare de Lyon. Voilà. Bon, le trafic a repris après plus ou moins normalement. Par contre, l'UNSA ferroviaire a annoncé aujourd'hui suspendre son préavis de grève reconductible que le syndicat avait lancé mardi soir. Bon, l'UNSA ferroviaire dit qu'il ne s'interdit pas de revenir à la grève dans quelques jours. Donc, il reste quand même à l'action la CGT cheminots et Sudrail. Niveau transport à Lyon, les TCL, c'est les régulateurs de métro qui sont en grève illimitée. Donc c'est une heure par jour et pas par poste, hein, c'est toujours ces grèves pas complètes, mais en tout cas ils sont là quand même, c'est bien. Il reste 6 raffineries sur 8 à l'arrêt ou au ralenti. Il y a toujours 16 centrales nucléaires qui sont donc concernées par les grèves, toujours celle du Bugey dans l'Ain où il y a eu un arrêt de travail de 4 heures, c'était cette nuit. Il y a des opérations de blocage, d'occupation sur des sites électriques, des sites gaziers, il y a des rassemblements, par exemple sur les centrales de Flamanville ou de Gravelines. Et la CFE CGC Énergie et l'UNSA Énergie s'étaient joints au mouvement aujourd'hui, hein, quand même, hein, ils sont sortis de la tanière. Et puis il y a ces fameuses coupures. Alors il y a eu cette coupure que certains ont trouvé un peu brutale, hein, dans la région de Saint-Nazaire, peu vers 10h50, apprend-on, paf, ça lâche. Alors il paraît que ce sont des grévistes qui sont allés occuper le poste de Saint-Malo de Guersac, hein, qui alimente toute la région, donc une petite coupure. Bon, ça a repris vers midi. Je reconnais que si vous étiez au milieu de tout ça, ça devait pas être sympa, mais en même temps, bon, c'était non plus, enfin, c'était pas si long que ça. Le truc plus rigolo, hein, c'est la CGT Énergie qui a revendiqué ce matin le passage en tarif creuse de plus d'un million d'abonnés en région parisienne. Ça, c'est quand même vachement classe. À Marseille, il y a aussi l'électricité qui a été coupée sur les sites de Merlan. C'est dans le 14e. Et puis, ils ont dégonflé les pneus des voitures de service. Ah, bah, un petit peu de sabotage, hein, ça fait pas de mal. Et puis, c'était mardi, hein, la CGT a essayé de gêner l'inauguration par François Hollande de la fameuse Cité du Vin à Bordeaux. C'était aussi une belle opération. Bon, il paraît qu'il y avait un groupe électrogène, donc ça a réussi à prendre le relais, mais il faut imaginez quand même que ça a été une belle pagaille. Alors, toutes ces actions portent le joli nom d'opération Robin des Bois. Il y en a eu dans le Morbihan, à Lorient, il y en a eu à Cherbourg, dans la Manche, enfin voilà, des tas d'opérations de coupures. Et puis, c'est les centres de traitement de déchets de la région parisienne qui sont bloqués, il y en a 3 sur 4. Et puis, on notera une grève des éboueurs de Saint-Étienne. Il y a 2 sites qui sont bloqués et en grève. Ils ont prévu, hein, une grève d'environ une semaine, enfin, jusqu'à la fin de la semaine. Oui, donc ça ferait une semaine puisqu'ils ont commencé en début de semaine. Donc voilà, beaucoup d'opérations encore aujourd'hui, beaucoup de gens encore en grève, mobilisés. Je voudrais juste revenir sur cette information dont vous avez parlé, c'est-à-dire ce qui s'était passé le 20 avril dernier à Lille. Tu te souviens, on avait raconté la police en était pris à un local de la CNT. On voyait sur la vidéo, la police est tentée de défoncer le rideau de fer et puis finalement ils avaient défoncé la porte. Ils avaient arrêté 2 camarades de la CNT, proches de la CNT. Ils avaient refusé de passer en comparution immédiate et hier se tenait leur procès. Ils avaient été laissés libres, hein, heureusement. Alors il y en a un qui a été relaxé et l'autre a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Ce qui est incroyable, c'est que cette histoire, elle est comme toutes les autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves, ouais. Pas de vidéos, Il n'y a rien. Et c'est de partout en France, hein, comme ça, que ça soit en comparution immédiate ou sur des reports de procès. À chaque fois, il n'y a rien. Il y a vraiment, les avocats même le disent très ouvertement, il n'y a rien. On est dans le vide absolu. Donc 6 mois de prison avec sursis pour un truc où il n'y a pas de preuves, ben, franchement, bon courage à toi, Martin. Il va évidemment faire appel, c'est très certainement, de cette condamnation. Alors,
Et t'as pas parlé de notre grand, célèbre, j'y viens, Monsieur Macron.
Mm-hmm. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau avec toutes ces émotions. Alors, Monsieur Macron était aujourd'hui dans notre métropole lyonnaise.
Ouais, à Oulin, très exactement.
Ouais, il était en visite à l'usite Arkema. Mais évidemment, il a été accueilli. Il y avait une banderole unitaire CGT, FO, FSU, Solidaire, CNT, UNEF. Les manifestants et les manifestantes étaient partis ce matin de la gare d'Oulin. Ils ont donc rejoint le site du groupe Arkema. C'est sur Pierre Bénite, il me semble, hein, c'est ça, Arkema. Bon, il y a eu une tentative de pénétration à l'intérieur du site, pas forcément soutenue a priori, parce qu'on a pu comprendre, par la CGT sur place, mais en tout cas, bon... Voilà, il y a eu une tentative, ça n'a pas forcément bien marché. Ensuite, Monsieur Macron a été accueilli à l'hôtel de ville de Lyon, là encore il y avait un accueil. Puis il a été raccompagné hein, jusqu'à son train, hein, jusqu'au bout, du début à la fin. Et il faut dire que Monsieur Macron a été très très bien accueilli par notre Gérard Collomb. Je vous rappelle que, si vous l'avez oublié ou si vous l'avez peut-être pas entendu, en tout cas je vous le dis, c'était il n'y a pas très longtemps sur RMC et BFM TV, Monsieur Collomb a apporté tout son soutien à Monsieur Macron et à son mouvement En Marche. Donc ce qui fait que GG aujourd'hui, bah, il a posté tout plein de choses sur son compte Twitter, des photos de lui avec son nouvel ami, et puis avec il y a eu toute une série de mantras. Franchement, Emmanuel, je serais toi, je me ferais quand même je serais pas très content, parce qu'il a quand même passé son temps à tweeter, hein, Gérard. Je suis donc pas bien si il t'a écouté. Alors ça donne des trucs du style « Oui, ce pays a besoin qu'on l'entraîne en lui fixant des objectifs qui incitent chacun à se transcender. Emmanuel Macron ne ressasse pas les dogmes d'hier, désormais périmés. Il veut rassembler plutôt que diviser. » Oui, tu peux rire.
C'est vrai, le libéralisme, c'est pas un truc d'hier, quoi.
Écoute, j'ai pas une mantra. Hein. « Emmanuel Macron tient un langage neuf et exprime des idées qui correspondent à la société d'aujourd'hui. Nous devons récompenser le travail, affirmer enfin que c'est à travers lui que les femmes et les hommes donnent un sens à leur vie. » Et il en a fait plein, des comme ça, toute la journée. Un truc de fou. Gérard Collomb, il n'en pouvait plus. Alors voilà, bon, en tout cas, c'est bien d'avoir accueilli Monsieur Macron. Et puis, on va se tourner vers un autre que nous aimons beaucoup, Monsieur Gattaz. Monsieur Pierre Gattaz, qui en a fait des belles. Alors, il faut savoir qu'il y en a qui lui ont rendu l'appareil, puisque ce matin, les militants de Nuit Debout, Solidaires, la CNT, la CGT Énergie de l'Isère se sont rendus à l'usine Aurélial. C'est l'usine de Monsieur Gattaz. Ils ont été faire coucou par là-bas. Hein. Donc c'est le comité isérois On Bloque Tout qui a organisé tout ça. Ils souhaitaient réagir aux propos tout juste injurieux hein, de Monsieur Gattaz. Je vous rappelle que lundi, au quotidien Le Monde, ce journal de centre droit, hein, rappelons-le, on n'est plus du tout à gauche depuis, là on a oublié, qu'il fallait pas céder au chantage et aux violences, c'est ce que disait Monsieur Gattaz, il fallait pas céder à l'intimidation et à la terreur face à des minorités qui se comportent un peu comme des voyous, comme des terroristes, hein, c'est bien ce terme qui a gêné. Alors, il y a eu d'autres répercussions, puisque la CGT Énergie du 83 est allée faire un coucou à sa villa de Saint-Raphaël dans le Var et a déposé son compteur. Compteur qu'ils ont présenté au congrès de l'Union départementale CGT du Var.
Voilà, on a le compteur de Gattaz.
Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors, la CGT a déposé une plainte en diffamation contre Pierre Gattaz suite à ses propos. Alors, Gattaz a regretté l'utilisation, hein, c'était hier, du mot terroriste en disant que ça avait pu choquer notamment les personnes qui ont été touchées par les événements récents qui ont endeuillé notre pays. Mais bon, il insiste hein, quand même, la CGT, c'est des voyous, il retire donc à peine, à moitié, on va dire. Et donc, pour se venger, Monsieur Gattaz et le MEDEF ont appelé mardi les entreprises touchées par les blocages à porter plainte Oui. Donc, le communiqué dit, face à la persistance d'une démarche assumée et revendiquée de blocage de l'économie française, le MEDEF incite toutes les entreprises de France dont le fonctionnement est perturbé, voire paralysé par ces blocages, à déposer plainte au titre de l'article 431.1 du Code pénal qui prévoit le délit d'entrave à la liberté du travail. Yes, il paraît qu'ils ont même monté une cellule de crise pour aider les entrepreneurs qui voudraient affronter ces vilains blocages. Petite dernière réaction médiatique, c'est la une de Challonge. Donc un fond rouge avec une image où on voit les différents codes Dalloz, hein, il y en a un peu différents. Il y en a trois, mais il n'y a pas le cas du travail. Et donc le titre, en gros, énorme, la France qui bloque, hein, un gros titre. Et alors il y a une liste dessous, je vais pas vous lire le premier, je vais le garder pour la fin. La France qui bloque, bureaucratie, normes, statuts, corporatisme, paperasse, recours. Et en premier, nous avons les cheminots.
Ah, c'est les cheminots qui foutent le bordel
La France qui bloque.
Ah, c'est bien.
J'ai trouvé ça très très chouette.
Ouais. Ils sont bien contre les normes, hein. On rappelle, c'est grâce aux normes qu'on n'a plus d'amiante. C'est grâce aux normes qu'on meurt pas tous les jours au travail. C'est grâce aux normes et aux lois que les enfants travaillent plus. C'est grâce aux normes et aux lois qu'on a la sécu. Enfin bon, des choses comme ça. A priori, Challenge est contre tout ça. C'est triste. On poursuit avec le Sénat, je crois, maintenant.
Ouais, ouais. Alors, hier soir, la commission des affaires sociales du Sénat a terminé son examen du projet de loi travail, 405 amendements analysés, à peu près la moitié de conservés. Alors ils sont très fiers, hein. Je vous rappelle que le Sénat c'est à droite, hein. Donc on nous a expliqué dans un communiqué que face à un contexte social tendu, la commission a souhaité redonner à ce texte l'ambition qui était la sienne avant les reculs successifs.
Donc ils le remettent encore plus à droite.
Ouais.
Bon, ça sert à rien le Sénat dans ce cadre-là, mais bon.
Le Sénat va certainement valider ce que la commission des affaires sociales, excusez-moi, a présenté. Il y a une séance le 13 juin pour 2 semaines de débat. Le gouvernement va devoir laisser faire, mais après, comme ça va retourner
revenir au 49-3
à l'Assemblée, voilà. Bon,
c'est donc, à rien.
Bon, mais on va quand même dire, parce que c'est quand même aussi des propositions de droite. Alors, le Sénat conserve l'article 2, hein, bien évidemment, on ne va pas s'asseoir dessus. Et puis, il y a des ajouts et des modifications, dont une a fait quand même un petit peu causer, et tant mieux, et fait réagir assez vivement. C'est une suppression de la notion de durée légale du travail, donc globalement des 35 heures. Donc, ce serait une durée de référence fixée par un accord d'entreprise ou à défaut de branche. Donc, c'est un peu du travail à la carte, hein, selon comment tout ça va se passer. Alors, si jamais il n'y avait pas d'accord, la durée serait de 39 heures. Hein, je vous rappelle le principe. Alors il paraît, encore une fois, hein, d'après les sénateurs, cette commission, qu'en France, on travaille moins qu'ailleurs. Bon, à chaque fois qu'on dit ça, on oublie de parler de la productivité.
Voilà, et puis en nombre d'heures, c'est pas vrai. Par exemple, les Allemands travaillent moins que nous, et bizarrement, leur économie va mieux. Donc, comme quoi, c'est pas le bon critère.
Les sénateurs feront un démenti, puisque les chiffres, ils disent 1536 heures en moyenne, 1580 en Allemagne.
Donc, ils sont jamais allés en Allemagne.
Annuel, hein, évidemment. Il y a un assouplissement du recours au CDD aussi, par exemple. Et puis, ils ont rejeté aussi la simplification du compte pénibilité. Non, mais de toute façon, tout ça, c'est pas applicable pour les entreprises. C'est trop chiant, on vire. Bon, je vais pas tous vous les faire. Vous pouvez aller retrouver sur le site du Sénat. Vous allez chercher... C'est pas facile, il est pas très bien fait, ce site. Vous allez dans l'onglet commission. Vous choisissez la commission des affaires sociales. Et là, vous allez dans les communiqués et vous trouverez... tout ce qu'ils ont décidé de mettre en place. Donc c'est sous la forme d'un communiqué, mais enfin bon, quand même, ça permet de se rendre compte que c'est pas vraiment nos amis non plus.
Non, mais ça permet d'imaginer un peu la politique du prochain gouvernement de droite. Hein,
tout à fait.
Puisqu'ils vont sûrement aller encore plus loin que les socialistes, surtout que les socialistes auront bien défriché avant.
Alors, on va parler un petit peu d'Amazon, puisqu'on est un petit peu dans les mêmes mouvements sociaux. Alors, il y a une grève illimitée en cours dans les sites, les plateformes d'Amazon en France. Ça touche les sites de Douai, de Montélimar, de Chalon-sur-Saône. Il y a une demande de revalorisation des salaires pour les grévistes. Et alors, il se passe un certain nombre de choses, c'est-à-dire que les directions d'Amazon réagissent, et réagissent plutôt durement. Alors à Montélimar, il y a donc cette grève qui avait commencé, les grévistes ont été rejoints par des militants de Nuit Debout, la CGT demande 1% d'augmentation, la direction en propose 0,5%, 1% déjà c'est que dalle, hein, il faut le savoir. Face à ça, la direction semble aussi vouloir modifier un certain nombre de conditions de travail. Et face à cette grève et face à un blocage qui s'était mis en place devant la plateforme, Amazon n'a rien trouvé de mieux que d'assigner en référé la déléguée CGT de Montélimar devant le tribunal de grande instance de Valence pour entrave à la liberté du travail. Encore une fois, on y revient. Alors là, Amazon lui reproche à elle toute seule d'avoir organisé le blocage des camions et d'empêcher les salariés non grévistes de travailler avec ses petits bras musclés comme ça, hein, toute seule, elle a tout bloqué. C'est vrai qu'elle maîtrise tout le collectif Nuit Debout. Hein, il faut le savoir, elle toute seule, c'est une gourou. Alors bon, Amazon dit c'est pas parce qu'elle est à la CGT hein, qu'on l'a voulu la faire tomber. Non. Bon, le tribunal de Valence a ordonné la levée du blocage. Hein, on s'y attendait un peu, comme toujours. Il y a des amendes si jamais vous levez pas votre blocage par jour constaté. Donc aujourd'hui il y a une nouvelle manifestation. Alors, la manifestation partait d'Amazon, passait devant Decathlon, puis le McDonald's, puis retour à Amazon. Voyez. Que des grosses multinationales, c'est sympa. Et puis c'est à Sevray, il y a eu aussi une autre répression. Il y avait eu le 25 et 26 mai dernier des barrages devant le site de la plateforme de Sevray, donc en Saône-et-Loire. Deux salariés d'Amazon, deux délégués CGT avaient été assignés en référé devant le tribunal hier. Ils ont été accusés aussi d'entrave à la circulation des marchandises. On les accuse eux aussi d'avoir mis en place un piquet de grève. Je vois pas en quoi la grève c'est un problème. Et d'avoir bloqué l'entrée des entrepôts. Ça, c'est maintenant les nouvelles mesures de répression du patronat. Donc, évidemment, ils ont été condamnés à lever les barrages. Mais comme ils l'ont fait savoir, les barrages de toute façon étaient déjà levés à ce moment-là. Donc, on y voyait plus bien le problème. Donc, les deux délégués CGT contestent la décision, vont faire appel. Ils estiment ne pas être responsables, surtout qu'ils n'étaient pas sur place. Ils étaient à Paris pour des négociations ces jours-là, donc ils trouvent que ça commençait à bien faire, que donc certes, la grève elle a gêné, mais en plus de ça, même l'entreprise, même Amazon a reconnu qu'il y avait quand même des camions qui pouvaient passer. Donc en fait, le blocage, il était un petit peu filtrant, si vous voulez, quand même. Hein. Donc voilà, ils vont faire tous les deux appel. Alors face à tout ça, Amazon communique doucement en expliquant qu'effectivement, il y a un mouvement... au niveau national et que donc ça ralentit un petit peu les livraisons. Mais alors il faut savoir que pendant ce week-end du 26, 27, 28 où il y a eu tout plein de mouvements, de blocages, c'était la fin des mers. Bon Amazon continuait beaucoup à communiquer là-dessus, hein, alors qu'en même temps il avait la multinationale avait des soucis de livraison. Et puis il faut savoir que pour bien aider Amazon, c'est l'entrepôt de Saran qui est touché par les inondations. Donc ce qui fait qu'ils ont eu quelques soucis hein, en début de semaine pour aussi pouvoir un petit peu livrer les très chers clients. Voilà, donc le climat a donc aidé les grévistes dans cette affaire.
On va faire une partie internationale maintenant et on va commencer par l'Allemagne et on va parler du génocide arménien puisque le Bundestag, vous savez c'est la chambre basse, l'équivalent de notre parlement, la chambre basse du parlement allemand qui a adopté aujourd'hui une résolution qui reconnaît le génocide arménien. Et à la très très grande majorité, hein, puisque un député a voté contre et un s'est abstenu. Donc voilà, c'est une quasi-unanimité. Donc cette résolution qualifie le massacre des 1,5 million d'Arméniens par les forces ottomanes à l'époque, ce qui deviendra la Turquie après, en 1915, comme un génocide, ce que ne reconnaît pas une partie des pays, et puis surtout la Turquie. Alors, ça tombe un peu au mauvais moment, parce que ça emmerde la chancelière Madame Merkel, hein, puisque en ce moment, c'est tendu au sein de la politique allemande en interne, avec ses corrélégionnaires, hein, avec la montée des partis d'extrême droite, notamment l'AFD. Et là, elle joue pas mal de choses en ce moment, notamment à travers l'accord avec la Turquie, hein, qui a été signé au mois de mars, un accord relativement indigne, hein, pour tout démocrate qui se respecte, puisque on a négocié des gens contre de l'argent quelque part. Grosso modo, hein, on vous rappelle que la Turquie s'engage à empêcher les migrants de passer, à les garder chez lui. En échange, on lui donne de l'argent, des milliards, et on lui promet une entrée dans l'Union européenne, ce qui ne pourra jamais se faire, hein, on rappelle, vu que la Turquie respecte pas du tout les clauses minimum pour entrer dans l'Union européenne, ne serait-ce qu'au niveau de la liberté de la presse, du droit des femmes, enfin j'en passe, et des meilleurs. Donc bref, ça a énervé la Turquie, qui a réagi, qui avait réagi avant le vote, hein, puisqu'il savait que ça allait être voté, et qui a réagi après encore le vote. La Turquie a dit que c'était une erreur, ils ont pas dit une horreur, une erreur historique, ils ont dit que c'était nul et non avenu. Ouais. Le vice-premier ministre, qui est aussi le porte-parole du gouvernement, qui s'appelle Monsieur Kurtulmus, a estimé que l'adoption du texte n'était pas digne des relations d'amitié établies entre les deux pays. Il parlait justement de ce qui avait été négocié avec Madame Merkel. Et il a dit que la Turquie y répondra de manière adéquate. Alors, je ne sais pas en quoi ça va être adéquate. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont rappelé aujourd'hui l'ambassadeur turc qui était en Allemagne. Bon, si c'est ça la réaction, c'est pas la mort. Tous les pays du monde qui n'ont pas reconnu le génocide arménien, vous pouvez y aller. Vous risquez pas grand-chose. Alors, faut savoir quand même que c'est pas le premier pays. La France l'a reconnu. Il y a une vingtaine de pays, un peu plus, hein, qui l'ont reconnu, dont l'Italie, la Russie et quelques autres. Mais ça avance très doucement, hein. Il y a beaucoup plus de pays que ça dans le monde, donc c'est encore quelque chose qui soit n'intéresse pas les pays, hein, parce qu'il y a plein de pays qui ça les concerne pas, le génocide arménien, soit il y en a qui veulent pas se mettre les Turcs à dos, et voilà, après c'est de la géopolitique. On change de coin, on descend un petit peu en dessous et on va voir en Cisjordanie occupée et un petit peu en Israël ce qui s'y passe. D'abord aujourd'hui, l'action désespérée d'une Palestinienne qui a tenté de poignarder un soldat israélien, c'est près de Tul Karem. Donc elle arrivait avec un couteau, il était au poste des soldats là, et bon voilà, quand elle arrive avec le couteau, ils l'ont empêché d'agir et ils l'ont tué. Alors ça, c'est les violences de ces derniers mois, hein, que certains appelaient l'intifada de Jérusalem là, parce que c'était effectivement pas mal localisé à Jérusalem-Est et puis un petit peu en Cisjordanie, de ces Palestiniens qui sont tellement désespérés qu'il ne leur reste plus que le suicide, hein, puisque quelque part, à chaque fois, ils se font tuer. Donc ce suicide, en suicidant, eh ben, on essaye de faire une action un petit peu d'éclat, donc en essayant de blesser, de tuer, a priori non, parce qu'ils n'y arrivent pas, mais en tout cas de blesser les soldats d'une armée qui occupe leur pays. Même si ces derniers temps ça avait pas mal diminué, voilà, ça démontre que le désespoir est toujours grand, hein, pour en arriver à ces choses-là. Le bilan officiel serait de 206 Palestiniens morts, 28 Israéliens, 2 Américains, 1 Érythréen, 1 Soudanais depuis le 1er octobre, depuis le début de ces attaques un petit peu désespérées de la part des Palestiniens. Voilà. Alors toujours en lien avec la situation israélo-palestinienne, c'est une bonne nouvelle cette fois. C'est une dame qui s'appelle Khalida Jarrar, qui est députée, une grande personnalité de la lutte palestinienne, qui avait été condamnée l'an dernier à une peine de prison ferme par un tribunal militaire israélien. On a appris aujourd'hui qu'elle sortirait demain, vendredi, de prison, après 14 mois de tôle dans les geôles israéliennes. Donc ça a réjoui le club des prisonniers palestiniens, l'association palestinienne de défense des prisonniers, là, qui s'appelle, je cherchais le nom, Adamir. Voilà. Et il reste encore pas mal de parlementaires palestiniens en tôle en Israël. Il y en a 6 très exactement. Alors on les appelle des parlementaires, mais ils siègent plus depuis longtemps. Hein. Malheureusement, depuis 2007, il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de démocratie non plus en Cisjordanie. Hein. Ça a tout été bloqué suite à la victoire du Hamas dans la bande de Gaza. Il y a encore des gens qui portent le statut de parlementaires et qui sont arrêtés quand même par Israël sans aucun souci. Alors cette dame, elle est aussi symboliquement importante puisqu'elle est membre du Front Populaire de Libération de la Palestine, le fameux FPLP, hein, qui a été très très fort dans la lutte armée il y a de nombreuses années, un groupe d'inspiration de gauche, hein, ils étaient marxistes, voilà, c'est un vrai groupe révolutionnaire pour lutter contre l'occupation, et bon, après il y a eu des choses moins bien faites par ce groupe-là, et puis ils ont perdu de l'influence face à la montée de la religion et de l'islamisme. Malheureusement, c'est plus eux qui sont porteurs de l'essentiel de la lutte aujourd'hui et de la résistance. Enfin, c'était important que cette députée, cette parlementaire, sorte de prison. Alors, elle sort un mois plus tôt, donc un mois avant la fin de sa peine. L'administration pénitentiaire israélienne a dit que c'est parce que les prisons sont en surcapacité. Donc voilà, ils virent cette dame pour mettre un futur autre Palestinien, bien évidemment. Alors, toujours dans ce qui se passe en Israël-Palestine, c'est une nouvelle qui nous vient de B'Tselem. B'Tselem, c'est une association israélienne qui s'occupe de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme en Cisjordanie. Ils sont limités à la Cisjordanie. Ils ont plein d'emmerdes hein, depuis pas mal de temps, et ils ont décidé de changer de politique, puisque ça fait 25 ans quand même qu'ils dénoncent ce qui se passe dans la Cisjordanie occupée. Et ils dénoncent toujours de la même manière. C'est-à-dire qu'ils essayent d'amener les victimes palestiniennes devant la justice israélienne, avec comme idée que Israël, c'est une démocratie, il y a une justice qui marche. Quand les soldats font des choses illégales, on emmène ça devant la justice pour faire condamner les soldats. Donc ça a été le gros de l'action hein, de B'Tselem. On se rappelle, il y a quelques années, ils avaient distribué des caméras à des femmes notamment palestiniennes, pour que dès qu'elles étaient témoins d'une action violente, illégale d'un soldat israélien, elles le filment et après c'était posté et ils s'en servaient. Alors ça a eu une certaine efficacité au niveau international, puisqu'on a eu plein d'images de destruction de maisons, de tabassage, de choses comme ça, mais c'est tout. Mais c'est tout, pourquoi ? Parce que l'association explique qu'en fait, ils avaient une espèce d'accord, finalement quelque part, avec les militaires, c'est qu'ils acceptaient d'aller en justice, dans les cours notamment militaires, pour faire condamner les militaires. Les militaires qui respecteraient pas, qui ne respectaient pas la beauté de la guerre faite par l'armée israélienne, puisque c'est une belle armée, qu'elle est démocratique et qu'elle respecte les peuples. Et c'est un peu ce rapport ambigu que B'Tselem a traîné pendant 25 ans, en espérant faire gagner des Palestiniens. Sur les milliers de plaintes, enfin 739 très exactement déposées par B'Tselem, seuls 3% ont débouché sur des condamnations de soldats. Toutes les autres, malgré les preuves amenées, n'ont servi à rien. Et du coup, l'organisation a décidé que c'était fini. Que ce que faisait l'association sous cette forme-là, ça marchait pas. Voire qu'ils estiment, alors c'est les responsables qui disent ça, que l'organisation était quelque part devenue quasi complice des violations, parce qu'elle renforçait indirectement la crédibilité d'un système qui est incapable de fournir une vraie justice. Mais à travers l'action de l'association, l'armée pouvait dire « Attendez, regardez, quand on fait quelque chose d'illégal, il y a des actions en justice, regardez, B'Tselem porte plainte contre nous. » Du coup, l'instrumentalisation de leur action a été au-dessus de tout ce qu'ils pouvaient accepter ces derniers temps, et ils ont décidé de jeter l'éponge. Alors l'assaut va pas disparaître, ils vont juste transformer leur action et continuer de faire l'autre partie de leur travail, qui était énorme aussi, de l'information, de donner tout ce qui se passe en Cisjordanie sous l'action de l'armée israélienne. Faut savoir, hein, faut se rappeler qu'en ce moment, il y a une dérive très à droite du gouvernement, à l'extrême droite même, puisqu'on sait que Avigdor Lieberman, qui est un militant et un politicien d'extrême droite, est rentré au gouvernement en tant que ministre de la Défense, hein, qu'il est quand même ouvertement raciste, anti-arabe, voilà, il voulait les jeter à la mer, enfin bon, il a tenu des propos assez horribles, et c'est pas le seul, et c'est pas simplement la politique qui a basculé à l'extrême droite, c'est une majorité de la population qui a basculé à droite et à l'extrême droite. Et donc B'Tselem, comme pas mal d'associations, sont obligés de réagir et d'essayer d'adapter leur discours, mais leur moyen d'action à ce qui se passe aujourd'hui en Israël, et notamment d'essayer de faire changer la mentalité des gens qui a basculé du côté de la droite ou de l'extrême droite. Et il faut savoir aussi qu'il y a une loi qui est en préparation, qui a déjà été votée une fois, mais qui, alors c'est pareil, il y a des retours, hein, dans la première lecture à la Knesset, elle a été votée, Une loi qui ressemble à ce que tous les pays quasi totalitaires ou ultra répressifs ont mis en œuvre, comme la Russie, c'est d'attaquer les ONG en leur demandant des comptes sur leur financement, et si jamais elles sont financées par l'étranger, les faire fermer, c'est ce qu'a fait la Russie. B'Tselem reçoit de l'argent de partout dans le monde et fait partie des ONG qui sont menacées par le système. Ça aussi, ça a dû les inciter à changer de tactique. Voilà. Donc la situation est quand même très difficile, même pour une ONG comme B'Tselem, qui est, même si elle est financée, j'imagine, par plein de donateurs de partout dans le monde, c'est une ONG israélienne avec des Israéliens et des Israéliennes dedans. On avait rencontré une militante israélienne de l'assaut quand on était allé il y a quelques années. Donc là, même pour eux, c'est super difficile. Alors, pour terminer cette rubrique israélo-palestinienne, une bonne nouvelle qui vient de chez nous. Des militants palestiniens français étaient en justice contre des agressions de la Ligue de Défense Juive. Vous savez, c'est cet assaut qui existe en France, hein, qui existe dans plusieurs pays, de militants juifs d'extrême droite qui agressent assez régulièrement, qui attaquent des militants pro-palestiniens. Assaut qui est interdit en Israël même. Et aux États-Unis aussi, vous avez qu'à voir, mais pas en France. Ils ont des protections au placé qui font que, quelle que soit la couleur du gouvernement, ils sont jamais interdits. Mais bref, il y avait un procès et les militants d'extrême droite de la Ligue de défense juive qui avaient agressé des militants il y a 4 ans ont écopé de peine de prison, donc 6 mois de prison avec sursis à 1 an de prison ferme et des milliers d'euros de dommages et intérêts. Alors, faut savoir que ils ont essayé d'impressionner le tribunal. Ils sont arrivés avec des kippas et tout un attirail religieux en disant qu'ils travaillaient dans des écoles juives, qu'ils travaillaient au mémorial de la Shoah. Enfin voilà, ils ont essayé de raccrocher ça à des trucs parfaitement défendables, sauf que ça n'a pas fait plier les juges. Ils leur ont même demandé d'enlever leur symbole religieux qui n'avait pas leur place dans un tribunal. Et finalement, les trois présents, Laurent Cachoda, Daniel Benassaya et Steve Bismuth ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis et leur chef Joseph Ayash a été condamné à 1 mois de prison ferme, sauf que lui il s'est barré en Israël et Israël refuse bien sûr de le ramener ici. Son avocat a dit qu'il y avait des menaces qui pesaient sur lui. Ah oui, la justice quand elle fonctionne c'est des menaces. Donc voilà, c'est quand même la bonne nouvelle, les militants pro-palestiniens ont gagné contre l'extrême droite juive française du coup.
Alors très brièvement, c'était juste pour revenir un petit peu sur cette fête des mères. Vous savez que évidemment les entreprises, les multinationales communiquent beaucoup pour essayer de nous vendre un truc pour une fête pour laquelle nous n'avons pas trop d'amitié, il faut le dire. Et Apple, comme toutes les autres marques, s'est mis à communiquer avec évidemment toujours de beaux spots. C'est pur, c'est blanc, il y a de la belle musique, des belles images. Et donc Apple a organisé une campagne internationale pour vanter les mamans. Oui, tu peux rire. C'était pour vanter les mamans. Il y a eu en fait deux versions de cette même publicité. Une version pour l'Australie, par exemple, le Canada, par exemple, les États-Unis, par exemple, avec d'autres pays. Et puis une version pour la France, par exemple, l'Italie, par exemple, la Turquie, par exemple, la Corée du Sud, par exemple, le Japon.
Alors c'est quoi la différence entre ces deux versions ?
Eh ben c'est que dans la version première, au milieu de ces familles, il y avait deux mamans et la progéniture. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois c'était des images avec des câlins, tout ça. Et donc là il y avait un couple de lesbiennes. Et ben dans l'autre version, il y a plus le couple, il y a plus que la maman.
Alors c'est laquelle
avec le
version
câlin
qui a été censurée ? La version française ou la version américaine ?
En France, nous on n'a pas eu le droit. Au couple lesbien.
Ah ouais, la manif pour tous, ils font peur à Apple.
Alors c'est Apple qui a décidé de sélectionner deux versions selon les pays.
Plus ou moins ouverts sur la reconnaissance.
Voilà,
des
mais en France, il y a absolument aucun problème sur la question. Donc là, c'est Apple qui met en place une autocensure par rapport à ce que la multinationale pense que ça peut avoir comme répercussion auprès des consommateurs. Donc c'est tous ces actes qui n'aident pas vraiment à lutter contre l'homophobie, qui est au contraire, moi je trouve, pas fait que rassurer les homophobes. Regardez, on a bien de belles familles avec un papa et une maman. C'est bien dommage, hein, surtout qu'on rappellera que Tim Cook est un militant gay. Donc c'est un peu dommage que il s'assoie sur ses principes pour pouvoir vendre un peu plus de téléphones.
Alors, on va parler un petit peu de religion dans cette rubrique Ni Dieu ni Maître, que je n'avais pas fait depuis un certain temps. Mais quelques infos sont sorties ces derniers jours, du coup on va reparler un petit peu des religions. Et on va retourner en Turquie. Ah oui, moi je pense que je vais monter le fan club de haine contre Monsieur Erdogan, parce que là, chaque fois, il me fait mal à mon petit cœur chaque fois qu'il parle. Hein. Donc il a fait un discours à Istanbul, qui a été retransmis à la télévision. Et il a déclaré, je cite, on nous parle de contraception, de planning familial. Aucune famille musulmane ne peut avoir une telle mentalité. Ce que dit mon Dieu, ce que dit mon cher prophète, nous irons dans cette voie. Donc grosso modo, on rejette la contraception et tout ce qui est lié au planning familial. C'est quand même très très beau. Bon, c'est normal, et vous allez me dire, il est conservateur et il est musulman conservateur, comme on dit. Mais bon, quand même, chaque fois qu'il parle comme ça, ça choque. Quand on sait que c'est pas la première fois qu'il a des propos très clivants sur la famille et particulièrement sur les femmes, je parle pas de l'homosexualité, parce que là, bon, pour lui, c'est une horreur, il ose même pas prononcer le mot. Mais bon, voilà, les femmes en prennent quand même pas mal dans la gueule avec les nouvelles lois en Turquie. Et il est retourné du côté il faut faire des enfants aussi, c'est un peu nouveau, moi je trouve, dans le discours, alors c'était pas arrivé jusqu'à mes oreilles, puisqu'il a dit que les femmes devaient avoir au moins 3 enfants, et qu'il a, par la même occasion, critiqué bien évidemment l'avortement, qu'il qualifie de crime contre l'humanité, voilà, et puis dénoncé, je cite, toujours la trahison contre des générations de Turcs que représente à ses yeux le planning familial. Voilà, alors faut quand même savoir que il est contre le travail des femmes globalement, puisque dans son gouvernement il y a une seule femme. Hein, donc a priori il n'est pas pour. Voilà, bon, la Turquie a pas de problème de fertilité, hein, ils sont à 2,14 enfants par femme. Donc, mais il est dans cette idéologie, hein, comme les chrétiens d'ailleurs, du multipliez-vous au maximum, dans cette idéologie que la Terre est un monde infini, que les ressources sont infinies, alors qu'on est déjà bien évidemment beaucoup trop sur cette planète, dans un sale état, en tout cas aujourd'hui. Voilà, bon, si on regarde toutes les études, hein, le planning familial en Turquie, il souffre, hein, il faut aller voir sur le Fonds des Nations Unies pour la Population, qui a une étude sur le planning familial en Turquie, et malheureusement, c'est pas triste, enfin, c'est plutôt triste, plutôt. Alors, on va changer de religion, et on va aller du côté des bouddhistes. Et j'ai 2 infos sur les bouddhistes, on n'en parle pas souvent. Souvent, c'est soi-disant une religion d'amour. Peut-être pas trop. Alors, c'est le chef des bouddhistes, vous savez, c'est le Dalai Lama, un réfugié très célèbre, hein, puisqu'il est, il peut pas aller dans son pays, hein, bien évidemment, qui est le Tibet, qui est occupé par la Chine. Et il a donné une interview à la presse allemande, au Frankfurter Allgemeine Zeitung, un grand journal allemand, et il a estimé qu'il y avait trop de réfugiés en Allemagne. Alors je cite le Dalai Lama, c'est pas tous les jours que dans le Kenya Info on cite le Dalai Lama. « Quand nous regardons le visage de chaque réfugié, surtout ceux des enfants et des femmes, nous ressentons leur souffrance, et un être humain qui a de meilleures conditions de vie a la responsabilité de les aider. » Là, on se dit, ouais, cool, il est comme les autres, il faut les aider. Et après, il a dit, mais d'un autre côté, il y en a trop à présent. Ah, là, il commence à vriller. Et puis, là, il a ajouté, il y en a tant que cela devient difficile sur le plan pratique. Et sur le plan moral, je trouve aussi que ces réfugiés ne devraient être accueillis que provisoirement. L'objectif devrait être qu'ils retournent dans leur pays et aident à reconstruire leur pays. Alors, sur le principe, on dit, bon, oui, pourquoi pas. Mais on n'a pas encore le fond de sa pensée. Et ça va venir, puisqu'il va continuer en disant, je cite toujours, « L'Europe, l'Allemagne en particulier, ne peut devenir un pays arabe. L'Allemagne est l'Allemagne. » Et voilà. Il a basculé dans la théorie du grand remplacement, hein, les théories racistes véhiculées par l'extrême droite. Et il fait donc un discours de soutien à l'extrême droite, comme quoi le bouddhisme n'est pas une religion d'amour. Mais ça, on le savait déjà, hein, quand on voit ce qui peut se passer dans les pays où le bouddhisme est très implanté. Mais enfin, voilà, c'était une démonstration assez nouvelle, hein, que le Dalai Lama est quelqu'un de raciste. Et puis on va rester avec les bouddhistes qui, a priori, aiment pas trop les animaux. Alors on savait, il y a le côté, un peu fleur bleue hein, pour les fans du bouddhisme, en disant ils mangent pas, ils sont plutôt végétariens, donc ils respectent les animaux, etc. Eh ben, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un gros scandale en Thaïlande sur un temple bouddhiste qui avait des tigres. Le scandale a été dénoncé plusieurs fois par des militants, notamment Edwin Wick, qui est un défenseur des droits des animaux, qui a milité longtemps pour la fermeture du temple. Et puis là, il y a eu une perquisition, ils sont rentrés dans le temple, ils ont trouvé plein de bébés tigres morts et congelés. Et ils ont eu des doutes hein, plusieurs fois, puisqu'ils, enfin, les touristes viennent se faire photographier avec des tigres, et les tigres sont très gentils, tout calmes. Et il y a quand même des suspicions qu'il est de drogage des tigres, parce que c'est quand même un animal un poil violent. Alors eux ils disent que c'est le dressage. Et puis finalement, quand il y a eu la perquisition, il y a quand même des doutes qu'il n'y ait pas non plus un trafic, parce que le tigre, il y a des vertus, voilà, pour les ceux qui croient à des trucs un peu bizarres en Asie, et les irrationnels qui courent les rues. Donc voilà, c'est pour démontrer que finalement le bouddhisme protège pas non plus les animaux. Et puis une bonne nouvelle pour ceux qui sont pour l'émancipation des systèmes totalitaires non démocratiques, etc., puisque la proportion des gens qui se disent sans religion augmente dans certains pays, notamment dans deux. C'est les derniers chiffres nous viennent d'Angleterre. En 2011, il y avait 25% des gens qui se disaient sans religion. En 2014, c'est le Guardian qui nous donne le chiffre aujourd'hui, c'est 48,5% des Anglais de Grande-Bretagne disent qu'ils sont sans religion. Ce qui a basculé, c'est qu'avant, ils avaient reçu une éducation plus ou moins chrétienne, religieuse. Alors, dans la particularité anglo-saxonne, et même s'ils pratiquaient plus, ils estimaient toujours être dans ce type, voilà, d'être toujours adhérent quelque part par tradition de cette religion. Et aujourd'hui, les gens ont basculé. Et ils disent non, ben, je pratique pas, je crois pas, c'est pas parce que mes parents l'étaient que je suis croyant. Et il y a eu la même enquête en Écosse il y a un mois, et c'était 52% de la population écossaise qui s'estimait sans religion. Donc dans la majorité des pays, l'influence de la religion augmente, dans d'autres ça diminue, et en même temps que ça diminue, on rappelle que c'est les libertés qui augmentent.
Et tu voulais peut-être nous parler un petit peu de choses radioactives ce soir,
du coup,
quand même.
On saute.
On verra si nous avons le temps à la fin.
Alors, ben oui, parce que j'ai plein d'infos.
Alors. Et ben justement.
Alors, la première info, c'est la nouvelle tricherie. Non, pas tricherie. Alors, on ne sait pas ce que c'est en fait. EDF raconte des trucs bizarres. Ils ont dit à l'autorité de sûreté du nucléaire qu'ils ne comptaient pas démanteler les centrales comme c'était prévu. L'autorité de sûreté nucléaire a pas tout compris, parce que normalement il y a une règle, c'est que dès qu'une centrale s'arrête, va être fermée, il faut la démanteler le plus rapidement possible. Le terme officiel c'est dans un délai aussi court que possible. Et EDF est en train de dire que non, hein. Il y a plusieurs centrales qui sont en cours de démantèlement. Ils disent non. Alors il n'y a pas le détail. Hein. L'autorité de sûreté nucléaire a posé des questions. EDF pour l'instant répond plutôt de travers. Mais ils ont laissé entendre que ils attendraient peut-être qu'il y en ait une de complètement démantelée avant de démanteler les autres pour soi-disant être sûr de savoir bien faire. C'est pas rassurant. Il y a une centrale sur le site de Saint-Laurent-des-Eaux, une à Chinon et une à Bugey qui attendent le démantèlement, qui sont arrêtées depuis plus d'une trentaine d'années quand même. À un moment, il faudrait se mettre au boulot, les gars. Il repousse en fait le plus tard possible pour plusieurs raisons, notamment une raison économique. Puisque nous allons parler maintenant d'un article des Échos, car j'ai lu un article des Échos. Vous savez, un journal libéral, comme ton journal de tout à l'heure là. Et il y a une étude très libérale.
C'est même pire, hein, les Échos. C'est pas juste libéral.
Sur le nucléaire. Et là, des études. Alors, ils partent de ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, d'abord, le 23 mai dernier, aux États-Unis, sur les rives du Tennessee, il y a la première centrale nucléaire américaine du 21e siècle qui se met en route. Une nouvelle. Il y en a très peu aux États-Unis, hein, depuis Three Mile Island, le fameux accident du 20e siècle. C'est Watts Bar 2 qui est mis en route. Alors, ils partent de ça, puis ils se disent, mais en fait, c'est un truc isolé, puisqu'ailleurs, c'est l'inverse, puisque pas mal d'entreprises qui ont des centrales nucléaires ralentissent ou essayent de s'en débarrasser. Alors on a l'exemple de TVA, donc boîte américaine qui a des centrales nucléaires, qui a mis aux enchères un réacteur et qui le brade à 36 millions de dollars, quoi. C'est pas cher hein, pour une centrale nucléaire, mais ils n'arrivent pas à trouver preneur. Et alors, il y a d'autres États comme ça, ou d'autres entreprises qui essayent de se débarrasser. Grosso modo, il y a 15 à 20 réacteurs qui pourraient fermer d'ici 5 à 10 ans pour la seule raison que c'est pas rentable. Pas parce que les réacteurs sont trop vieux, etc. C'est parce que c'est plus rentable aux États-Unis. Il faut dire qu'ils sont concurrencés par le gaz de schiste pas cher. Hein. Ce qui n'est pas mieux, ceci dit, mais ça démontre que le nucléaire est en train d'en prendre plein la gueule. Alors, il y a plein d'autres exemples, hein, puisque du coup, l'article des Échos fait un bilan économique pur de ce qui se passe. Donc, on a en Suède, OKG et Waterfall, et ils ferment des réacteurs, pour la raison qu'ils ne sont plus rentables. En Finlande, c'est Standard & Poor's qui vient de dégrader la notation de l'entreprise qui s'appelle TVO, qui notamment le réacteur nucléaire EPR, là, qu'ils n'arrivent pas à finir. Parce que ils estiment que ça vaut pas le coup d'investir dans cette entreprise qui fabrique une centrale nucléaire dont le coût de la production d'électricité est plus coûteuse que le prix du gros d'électricité actuel. Donc voilà, il y a plein de trucs. Je vais pas vous détailler tout l'article, mais grosso modo, la conclusion c'est que c'est plus rentable. Et c'est très drôle parce que quand ils interrogent des responsables, notamment aux États-Unis, la seule solution qu'ils ont pour s'en sortir, c'est que l'État intervienne. Tous les grands libéraux, hein, tous ces gros menteurs libéraux qui nous disent toujours il faut qu'il y ait plus d'État, il faut qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent, et ben là c'est l'inverse, ils se disent tous ben, le seul moyen de s'en sortir c'est que l'État nous aide. Et effectivement il y a des États qui commencent à aider les entreprises qui ont des centrales nucléaires. Voilà, c'est un beau retournement comme le libéralisme sait le faire. Voilà, les Échos ne parlent pas bien sûr de retournement mais de sauvegarde de l'entreprise. Alors, un petit mot sur la centrale du Bugey. Tu sais que la centrale du Bugey, elle est à côté de chez nous. Et tellement à côté qu'en fait, à certains endroits du Grand Lyon, enfin de la métropole, pardon, elle est à moins de 20 km. Voire pour Jonage, je crois que c'est 18 km. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est dans le plan d'évacuation possible suite à un accident nucléaire. Et il y a Pierre Raymond qui est un militant et un élu des Verts lyonnais qui a demandé que le Grand Lyon, enfin que la métropole soit intégrée dans ce qui s'appelle le CLI qui est l'instance qui gère l'information en cas l'information avant l'accident nucléaire et après ce sera peut-être trop tard puisque Lyon est trop près. Alors jusqu'à maintenant hein, c'était la zone de sécurité était limitée à 10 km. C'était fait exprès pour qu'on s'inquiète pas. Là, aujourd'hui, les plans particuliers d'intervention, c'est comme ça que ça s'appelle, autour des sites nucléaires, vont passer à 20 km. Et c'est là où la demande de Pierre Raymond est justifiée, puisque, effectivement, il y a une partie de la métropole lyonnaise qui est dans ces 20 km. Donc, il faudrait que la métropole lyonnaise rentre dans cette commission locale d'information. Or, alors elle va se réunir bientôt, mais on sait que ça va pas être accepté, puisque on s'est déjà écrit à l'avance, hein, ils préparent ces trucs démocratiques où les résultats sont déjà connus à l'avance. Hein. Donc oui, on sait déjà que Lyon va être rejeté, ce qui énerve Pierre Raymond, ce qui doit énerver aussi d'autres écolos, puisque ça démontre une fois de plus que le nucléaire refuse de voir les choses telles qu'elles sont, parce que ça voudrait dire, si on intègre Lyon à cette instance, enfin Lyon, la métropole, bah, qu'il va falloir distribuer des pastilles d'iode, des choses comme ça, et ça va inquiéter tout le monde, et ça va remettre sur le tapis le fait que le nucléaire c'est dangereux, notamment quand c'est proche des grandes villes. Voilà. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il est 57. Tu vas pouvoir avoir quelques minutes pour parler d'une fan zone à Paris qui a des soucis.
Non, c'est très très brièvement. C'est parce que ça me fait rire et que j'ai envie de me moquer de l'Euro 2016. Donc, vous savez, nous on n'aime pas trop le sport compète et le sport business ici. C'est le préfet de police de Paris, Monsieur Cadeau, qui a proposé, d'après ce qu'on en sait, la fermeture de la fan zone du Champ de Mars. Les jours de match. Je vais y arriver.
Ah, elle servirait que quand il n'y a pas de match, c'est intéressant.
Oui, mais l'idée, c'est d'éviter d'avoir à la fois des forces de l'ordre au Stade de France, par exemple, et à la fois sur la fan zone. il paraît qu'il y a un état d'épuisement avancé des forces de l'ordre. Alors tout ça, c'est pas vraiment public, en fait. C'est le point qui a balancé le truc, et puis ensuite, machin, et puis oui, il y aurait eu confirmation. A priori, ça fait déjà un petit moment que le préfet de police pousse un peu pour éviter cette fan zone. Il n'arrive pas bien, puisque M. Valls et M. Hollande sont très très admiratif de ce qui va se passer pour cet euro. Donc voilà, mais ça m'a fait rire parce que en fait, il y a plein de gens qui en veulent pas de cette fan zone et des gens très très différents en fait. Hein. Il y a pas que nous.
Voilà, il reste une minute avant la prochaine émission qui vous parlera des prisons.
Eh ben, je pourrais juste vous rappeler, parce qu'on avait oublié de le faire la dernière fois, que Acrimed fait une petite souscription. Il cherchait 60 000 euros pour rester un média libre et indépendant. Ils en sont à 30 000. Donc voilà, il y a encore moyen de les aider si vous le pouvez. Voilà, c'est des amis. Nous, on les aime bien. On aime bien l'Acrimed Acrimed 69. Voilà. Voilà, donc c'est un média qu'on apprécie.
Alors, un petit agenda avant de se quitter. Donc, demain soir à 19h à la librairie La Griffe, une rencontre sur le débat, enfin un débat sur le mouvement contre la loi du travail et la nuit debout. À Villefranche, ça sera une conférence débat sur l'état d'urgence et ce qui reste des droits ou ce qui reste plus des droits démocratiques. C'est à la ruche des citoyens à Villefranche. Samedi, sur le pont de la Guillotière, enfin en bas sur les berges, là, si c'est pas inondé, si le Rhône monte pas, à 15h, il y a un rassemblement de soutien au peuple palestinien et pour le droit au boycott des produits israéliens fabriqués dans les colonies. Et samedi à 18h à l'atelier des canulars, une rencontre pour parler des violences sexuelles incestueuses, les conséquences et leur prise en charge. Voilà pour ce petit agenda très court. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci à Raoul pour l'introduction.
Et n'oubliez pas d'aller travailler pour vous payer un costard.
Ouais, moi j'en veux pas.
Ciao, ciao, ciao.
Alors, ça marche pas, les bandes continuent, je sais pas pourquoi, donc je ne peux pas relancer la musique, et nous n'avons pas de disque, nous sommes un canu info, voilà, donc en attendant que Delphine retourne chercher de l'aide derrière, je vous rappelle que le prochain canu info c'est demain 19h-20h avec l'équipe du vendredi, et voilà, ça y est, les bandes arrivent, et rendez-vous la semaine prochaine, 19h-20h, bye bye.